19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, vous le savez, dès lundi, début de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Mais surtout, j'espère que vous vous portez bien. Bon, alors au sommaire de cette émission, je suis d'abord très heureux de vous retrouver. Au sommaire, au programme, ce qui vous attend. On va recevoir une écrivaine, Iman Bassala, qui a écrit « À gauche du lit ». On va tenter de savoir, évidemment, une autofiction intime et politique en pleine thématique islamo-gauchiste. On en parle dans une poignée de minutes. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne, évidemment au 01 53 48 3000, pour parler des sujets qui nous concernent. Et puis tout à l'heure, le face-à-face, Farid Temsamani avec Jean-Claude Félix Tchikaya. Trois sujets qui ont retenu notre attention. Le mur de la honte, ça c'est le crack à Paris. C'est comme ça qu'ils l'ont baptisé, ce mur qui a été justement, qui fait polémique. Ensuite, nous nous intéresserons à Valérie Pécresse qui elle-même, évidemment, est en pleine route vers cette campagne présidentielle. A-t-elle la stature, l'envergure? On en parlera tout à l'heure. Et puis Macron. Macron, vous savez, et ce fameux, comment dirais-je, je n'arrive même plus parce que c'est... Je souris, excusez-moi, parce que ça me fait rire un peu. Il veut encourager les pourboires par carte bancaire et il veut les défiscaliser. Alors, je voudrais qu'on en parle parce que c'est assez, je dirais, loufoque. Mais pourquoi pas? Il y a peut-être un intérêt à tout ça. 01 53 48 3000, ça se passe tout à l'heure. Vous le savez, plus que jamais, les informer, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkat.
Et l'invité actualité, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est avec Iman Bassala.
Les informer, l'interview.
Bonsoir Iman Bassala.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Vous savez, comment vous allez d'abord Iman Bassala? Vous êtes écrivaine?
Oui, parfaitement, écrivaine et professeure de français. Oui. Alors,
vous en avez, vous êtes professeure de lettres, de français, absolument. Qu'est-ce que vous en avez écrit des ouvrages, dites donc?
Oui.
À l'école des enfants malades, la vie sexuelle des écrivains, à la plage des écrivains, quoi d'autre encore? La seule chose à briser, Louise, le sexe et les autres, absolument. Et maintenant, À gauche du lit, quel titre? Bien. Un roman, une autofiction intime aux éditions Anne Carrière. Alors, parmi tous ces ouvrages, À gauche du lit, c'est parce que c'était en pleine tendance de thématique en ce moment. C'est, j'ai l'impression que tout le monde écrit des livres sur la gauche là, en ce moment-là.
Sur la gauche, oui, j'avais vu le titre de Luc Lélène aussi.
Ben oui, je l'ai reçu la semaine dernière. Alors, je me suis dit, ils vont croire que les auditeurs, j'invite tous les gens qui écrivent des ouvrages autour de la gauche. Hein.
Alors tout à fait, mais moi bon, c'est lié à une histoire personnelle justement, c'est sur la réflexion sur ce qu'on a appelé l'islamo-gauchisme, qui m'est venu après l'assassinat de Samuel Paty, il y a bientôt un an aujourd'hui. Mmh. Je me suis dit qu'il fallait réfléchir à ça, et à qui sont les terroristes et qui sont les gens qui défendent les terroristes et jusqu'aux avocats, à travers une histoire d'amour entre cette professeure de lettres et ce ténor du barreau qui défend des terroristes, ouais, divers attentats, et depuis très longtemps, qui est inspiré d'un personnage réel. Et à gauche du lit, alors c'était bien aussi parce que c'était un titre politique, ouais, c'est jusqu'où les problèmes de la société se retrouvent.
Mais alors c'est pas mal trouvé ça, à gauche du lit. Pourquoi vous l'avez intitulé À gauche du lit?
Oui, bah parce que ça permettait, il y avait plusieurs sens qui se superposaient. À gauche du lit, c'est qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde en premier en se levant, à quoi on pense en se couchant, qui dort à gauche du lit, cet inconnu finalement qui reste l'autre.
Oui, c'est vrai, qui dort à gauche, qui dort à droite.
Et voilà, puis la gauche avec laquelle Farah, mon personnage, je crois, a couché finalement. les assignations de chacun, parce que ouais, une fois qu'on a sa place dans le lit, on n'en bouge pas, mais il a aussi derrière ça les assignations identitaires que je réfléchis beaucoup dans son livre, Farah et ses origines, mais aussi Albert et ses origines, sa vision peut-être romanesque du terrorisme.
Oui, c'est pas faux. Mais alors, comme c'est vrai qu'on est en pleine thématique sur l'islamo-gauchisme, est-ce qu'il y a un problème d'identité finalement? Est-ce que vous avez été touché, frappé par cela, notamment Iman Bassala?
Je ne sais pas si je peux dire que j'ai été touchée par ça, mais je sais que...
Est-ce qu'on est torturé en réalité? Parce que l'islamo-gauchisme, quand on regarde la définition, effectivement, est-ce que la question, je vous la pose, c'est un fantasme, oui, c'est une réalité, c'est quoi cette histoire?
À partir du moment où on pose ce mot d'islamo-gauchisme, on en part tout débat. Effectivement, il y a beaucoup de projections et de fantasmes autour. Est-ce qu'on a, on est passé finalement de la gauche caviar à l'islamo-gauchisme pour à chaque fois discréditer une grande partie de la gauche? Voilà, il se trouve que moi, mon personnage de roman se trouve effectivement à chaque fois acculé à son identité par les islamistes et par les musulmans tout court, ouais. Et par les arabes et par les islamo-gauchistes parce que eux, parfois, ils aimeraient qu'elle soit plus musulmane qu'elle ne l'est en fait. Oui. Donc les fantasmes sont dans tous les sens et fusent de partout.
Oui, pardon.
Oui, c'est ça, je vais m'arrêter là, les fantasmes fusent de partout. Alors, est-ce que j'ai été touchée, moi, personnellement? Je n'en sais rien, je sais juste que moi, j'ai subi ma première attaque raciste l'année dernière, au moment des attentats de Samuel Paty, contre Samuel Paty, pardon, et je me suis posé la question à ce moment-là, je me suis dit, il est temps de réfléchir là-dessus.
Eh bien, votre roman, il en parle, c'est une, évidemment... c'est un roman que vous avez, qui est en pleine actualité, une autofiction très intime, très politique, parce que il y a à la fois... évidemment, Farah, d'accord, qui enseigne les lettres, hein, c'est un peu vous, hein, en quelque sorte.
Effectivement, et qui se retrouve
dans un lycée de quartier populaire. Hein.
Oui, qui se retrouve effectivement confronté aux questions des élèves très stigmatisés, jusqu'à un élève qui va commettre un acte contre lui-même, Youssef, qui, pour renvoyer au journaliste l'image Saint-Jean qu'il aimerait avoir de lui, secoue sa chaîne dans un geste de décapitation et photographié. Il y a une déferlante médiatique contre lui et Youssef est un très bon élève qui n'en a rien à faire des choses à la religion,
c'est
mais il leur dit, voilà, vous voulez que je sois un terroriste, et ben je vous renvoie cette image de là et je me suicide et ça sert à rien d'exister en France en tant qu'arabe puisque de toute façon votre image de moi elle est déjà faite, je suis lycéen et mon avenir est foutu, donc voilà, je vous donne ce que vous voulez.
Et là surgit un avocat qui s'appelle Albert dans votre ouvrage. Quel double de l'âge de Farah. Et alors, il défend farouchement, il défend corps et âme, évidemment, ces islamistes, si on peut dire ça, au nom de l'état de droit, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il cherche Albert, au juste, effectivement, dans cette autofiction?
Albert, déjà, il a effectivement, de par sa famille, une histoire avec l'Orient, comme beaucoup de gens en France, même quand ils ne sont pas... ici de ces régions-là, donc il a une vision de l'Orient, il cherche à comprendre la responsabilité peut-être de la France, il cherche à comprendre un être humain s'explique toujours ce que pensent les avocats, et il veut pas effectivement que à force de réduire peut-être la vision du terrorisme, on finisse par réduire la vision tout court de tout, et il cherche à asseoir ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire que tout homme a droit à une justice équitable et française, et il veut faire rappeler.
Mais il a rien à voir avec le monde de Farah, parce que lui, il est plutôt bourgeois dans votre livre.
Justement,
vous le racontez. Il est blanc.
Et
d'ailleurs, il est très sensible à la question musulmane.
Oui, il est très sensible à la question musulmane parce que sa famille est orientaliste de collection d'art, etc. Et puis, il a une relation avec le Maghreb. Il a participé au grand procès aussi qui ont animé le temple. C'est ce que son âge a permis. Et effectivement, le fait qu'il soit
dans le roman
social opposé, merci beaucoup. Il y a la lutte des classes, effectivement, qui joue aussi.
C'était ma question, justement.
Ouais.
Cette histoire, est-ce que finalement, ces inégalités qui sont là, comment. Est-ce que c'est aussi un peu faire part dans votre roman de mettre en exergue, hein, en évidence, ces inégalités, ce fossé qui se creuse d'ailleurs de plus en plus entre, d'un côté, les pauvres et les riches?
C'est ça, c'est-à-dire que quelque part, y compris dans l'amour, en fait l'amour...
Ça ferait un bon film, ça, hein.
Oui, il paraît, ouais, les droits sont en cours de rachat, je pense. Mais effectivement, dans l'amour, chacun cherche à ouvrir le couvercle de la tête de l'autre plus que partout ailleurs. Et l'amour permet de dépasser certains clivages sociaux, mais finalement, ces clivages sociaux mettent en échec l'amour lui-même et on finit par...
parce qu'ils tombent amoureux, ils tombent amoureux les deux, hein, ça.
Oui,
Farah
et
l'avocat Albert. Hein.
Oui. Un grand amour inattendu et passionnel.
Ouais, et qui d'ailleurs ne tombe pas forcément à la fin de votre ouvrage. Ils connaîtront plutôt un désamour, non?
Oui, un désamour.
Une espèce de déchirure, quoi.
rupture de une chronique de rupture annoncée et parce que ils n'arriveront pas à dépasser certaines choses de se découvrir la lecture du roman. Ouais. Ils n'arrivent pas surtout à dépasser une certaine affaire terroriste qui rappelle sur un être qui rappelle particulièrement un oncle désastreux dont Farah a subi beaucoup de choses.
Finalement, votre ouvrage à gauche du lit, et vraiment j'invite nos auditeurs à aller se le procurer parce que il est en pleine actualité, je vous en prie, Imane, et à la fois vous traitez de cette identité, vous traitez évidemment les mots et MAUX de notre société, vous parlez évidemment de ce qui nous concerne aujourd'hui, hein, cette déchirure, hein. Je suis français, je suis d'origine intel, je sais pas qui je suis finalement, et on me renvoie aussi à mes origines. C'est un peu ça aussi votre livre, hein.
Oui, c'est ça, parce que chaque matin quand on se réveille, il y a le bon arabe, le mauvais arabe, le
c'est
chanteur,
ça,
etc.
C'est ça, hein.
Mais ce que j'appelle Mohamed, Monsieur Tout le Monde, on n'en parle pas. Et effectivement, chaque
fois. Il questionne l'identité quand même pour pas votre livre, hein.
Il questionne l'identité, et puis il y a aussi.
Il questionne l'identité, je dis, hein.
Pardon ?
Il questionne l'identité, votre livre.
Oui,
hein.
Il la questionne aussi à travers la trajectoire de Farah, de sa mère et de sa grand-mère, chacune ayant vécu différemment. Et il y a beaucoup d'allers-retours, et puis ce que va devenir sa fille aussi dans tout ça.
Vous voulez casser, moi si j'ai bien compris, dans votre ouvrage, vous voulez à la fois, comment dirais-je, apporter une espèce de réflexion dans notre société, et à la fois aussi en finir avec les préjugés.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est à nous, aujourd'hui, Arabes de France, de dire qui nous sommes et pas laisser aux autres de le faire, suivez mon regard. En fait, on ne peut plus utiliser la politique de la chaise vide et il faut montrer qui nous sommes avec nos histoires à nous.
Vous savez, vous venez de me donner, j'avais un sujet, c'était celui, mais en même temps, on est en pleine actualité là. Il y a un footballeur du PSG qui est d'origine arabe, justement, qui dit une des raisons qui font que je suis venu à Paris, c'est la communauté arabe musulmane. Je savais que j'allais me sentir comme à la maison. C'est un peu votre livre. Non, mais vous rigolez, vous savez pourquoi ? Ça va vous faire moins rire parce que les gens du Front National des extrêmes droites se sont emparés de cette déclaration de ce joueur footballeur et ils l'ont assassiné en lui disant voilà, regardez-les encore, cette communautaire, etc. Mais en même temps, c'est un Français qui parle aux Français. Arrêtons. Enfin, ça a fait une grosse polémique tout le week-end. Tout le week-end, on en a parlé. Tout le
c'est
week-end.
C'est pas pour rien que Farah est amoureuse d'un avocat. C'est tout ce que vous pourrez dire sera retourné contre vous. Moi, à chaque page de cet ouvrage, j'ai tremblé sur la récupération qui pouvait être faite.
Et ben moi, j'ai décidé que les auditeurs réagissent là-dessus. Quelle identité êtes-vous ? Non, mais c'est vrai. Finalement, c'est vrai. Comme j'ai vu que ça, je vois que ça fait polémique, on est quoi finalement ? On est français, on est algérien, on est marocain, on est tunisien, on est africain, subsaharien. On est quoi ? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. On est quoi ? On est les deux ? Eh ben tiens, je vais commencer à ouvrir le standard 01-53-48-3000 parce que votre livre vient de me donner une belle idée, hein, de comment dirais-je, de sujet pour traiter avec les amis auditeurs qui nous écoutent partout en France. Vous avez envie de dire un mot à nos auditeurs, justement, qui sont en pleine quête d'identité, qui continuent de se chercher encore. Les parents sont nés ici, les petits-parents, vous en rendez compte ? Les enfants, les petits-enfants, c'est ça
moi,
qui est terrible.
C'est ce qui m'a choquée très petite quand j'allais en Tunisie, c'était... Tu préfères la France ou la Tunisie ? C'était une question vraiment très très récurrente, hein. et c'est un peu la même question que quand on dit tu préfères ton papa ou ta maman. Ça a pas de sens. On est les deux.
On est les deux. Eh ben tiens, je poserai les auditeurs. Est-ce que vous êtes les deux ? Est-ce que vous vous sentez vraiment les deux, c'est-à-dire les deux nationalités, ou est-ce que il y en a une qui l'emporte sur l'autre ? 01 53 48 3000 partout en France, le standard est ouvert. Un petit mot de fin. Pour évidemment donner envie à nos auditeurs d'aller découvrir votre ouvrage, hein, Imane Bassala, qui s'intitule « À gauche du lit » aux éditions Anne Carrière.
Je dirais que c'est d'abord une grande et belle histoire d'amour.
C'est vrai.
Voilà.
Eh bien, merci. On a besoin d'amour. Hein.
Celle que nous avons pour nous.
On a besoin d'amour. Il n'y a pas assez d'amour. Hein.
Bien sûr,
il n'y a plus d'amour, Imane Bassala, non ? Je vous jure, je suis sérieux quand je vous pose la question. Est-ce qu'il y a encore de l'amour ?
D'ailleurs, il y a beaucoup de théories qui disent que les djihadistes, c'est d'abord des êtres en manque d'amour. Alors, bien sûr, à prendre avec des pincettes, mais voilà, je pense que si on rêvait plus à l'amour et qu'on s'en donnait plus...
Il n'y a pas assez d'amour, je vous promets. Dans les couples, il n'y a plus d'amour. Dans notre société, il n'y a plus d'amour. Avec nos enfants, il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qui se passe, les amis ? Où est passé cet amour dont nous parle Imane Bassala ? Mais c'est vrai, on a besoin d'amour. Vous avez raison.
D'amour,
vous avez raison.
Farah signifie la joie, le nom de mon personnage. et j'y crois encore.
C'est très beau. Magnifique. Bravo, Imane Bassala.
Merci à vous, Abdel Farkan.
À gauche du lit, allez vous le procurer. C'est un roman, un beau roman, une autofiction intime et politique. On est en plein dedans. Pas très cher, aux éditions Une Carrière. À très bientôt, Imane Bassala.
Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée. 01 53 48 3000. On a des auditeurs là ou pas? C'est qui? Tiens, juste avant. Mounir de Toulon, bonjour Mounir. Allô Mounir.
Mounir. Oui, bonjour.
Bonjour Mounir, bonjour. Vous savez ce que... Bonjour, vous allez bien?
Ça va super et vous?
Je lance la pub et je viendrai découvrir votre identité. Laquelle l'emporte sur l'autre? Est-ce que c'est les deux? Et finalement, on est quoi? On est quoi? Non mais c'est vrai, on est torturé. Qu'est-ce qui se passe? 01 53 48 3000, en quête d'identité. Je voudrais vous entendre partout en France. Il y a Mounir de Toulon, juste après la pub, et tous les autres que j'attends.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est en direct, en live, jusqu'à 20h. Nous sommes ensemble, vous le savez, vous pouvez participer au 01 53 48 3000. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On va parler de cette quête d'identité. Nous sommes quoi finalement? Français, d'origine algérienne, tunisienne, marocaine, subsaharienne. On est quoi? On est torturé, déchiré en permanence avec cette double identité. Je veux qu'on en parle parce que j'ai reçu Imane Bassala qui est auteur évidemment de ce bel ouvrage. Je voudrais qu'on en parle et puis surtout, alors j'ai Mounir de Toulon. Il est passé où Mounir de Toulon? Il s'est barré. Mounir, qu'est-ce qui s'est passé? T'es hors réseau, je pense. Hein. Allez, 01 53 48 3000. Mehdi de la Côte d'Azur. Bonjour Mehdi.
Bonjour, salam alaikum.
Alaikum salam, comment ça va Mehdi?
Ça va, alhamdoulilah, tranquillement. On essaye d'aller.
Mais Mehdi, on essaie d'y aller, c'est vrai. On essaie d'y aller. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? On essaie d'y aller. C'est vrai, hein, c'est terrible. Hein.
C'est malheureux.
La Côte d'Azur, quel côté de la Côte d'Azur? Monaco, Nice, Cannes?
Voilà, plus du côté de Fréjus, le côté...
Fréjus, aïe, hein, la classe, il fait beau là-bas. Là-bas, on est... Non, c'est... Ouais, à la mi-chemin entre la Côte d'Azur et... C'est à la lisière, on va dire. Mehdi, on vous écoute, Mehdi?
Il n'y a pas de souci. Vous disiez sur quel côté on prenait.
C'est vrai, on est déchiré, j'ai l'impression.
Je vais vous dire qu'on a ni l'un ni l'autre, moi, pour moi.
Ah, c'est pire encore! Oh là là! C'est pire que tout! Aïe. Alors lui, mais je m'attendais pas à ça.
En France, on va être considéré comme le maghrébin. Au Maghreb, on va être considéré comme le français. On a ni notre place ici, ni là-bas. C'est ça le problème.
Ouais.
Parce que là-bas, on est vu comme l'immigré qui a de l'argent. Et en France, on est vu comme le poison qui est venu intoxiquer le pays.
Ça va fort, le poison. Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Excusez-moi quand vous entendez.
Mais bon, sur quoi vous appuyez, Mehdi, pour dire ça?
Sur les médias, sur ce qu'on voit, le problème, c'est l'islam. Sauf qu'on a oublié de dire que, alhamdoulilah, je gagne très bien ma vie, je gagne plusieurs fois le SMIC par mois.
Tant mieux. Très bien, tant mieux. Et je vous souhaite de gagner plus encore.
C'est Dieu qui donne, de toute façon. Mais je me sens pas chez moi ici, j'ai beau gagner ce qu'on gagne. Vous savez, je serai toujours regardé d'un autre œil, etc. Quand on a des belles voitures, on est un dealer, on est ce que vous voulez.
Ouais.
Pourtant, je suis un autre
employé. C'est terrible, mais ça, j'ai l'impression qu'on vous a mis cette petite disquette dans votre tête, Mehdi. Hein.
Mais c'est pas qu'on nous l'a mis, c'est qu'on nous l'a fait ressentir jour le jour. Vous voyez la puissance qui monte, on nous parle des terroristes, parce que votre ami parlait des
djihadistes. L'écrivaine, ouais, notre invité plutôt. Ouais.
Votre invité, mais malheureusement, la plupart des djihadistes sont soit des convertis qui ont eu une ignorance de l'islam et qui sont partis trop loin, ou alors des maghrébins.
Et où? Mehdi, on l'a perdu, Mehdi.
L'islam, etc. Ah. N'étaient pas forcément des très bons pratiquants. Donc après, des terroristes ou autres, ça vient gâcher l'image de beaucoup, de millions de personnes, en vérité.
Bon. Donc finalement, vous vous sentez pas du tout français.
Ni chez nous ici et ni chez nous là-bas. Parce que là-bas, on est.
C'est terrible, hein?
Comme des gens qui ont de l'argent, qui ne sont pas de leur pays, soit qui l'ont trahi.
Ouais, j'ai bien compris, ouais.
Et lorsqu'on est ici, on est pas, malheureusement, on est...
Mais ce discours-là, je l'entends depuis 40 ans, vous savez.
Vous l'entendrez encore plus longtemps que ça, pour moi.
Je voudrais entendre aussi les femmes. Peut-être que souvent on dit les femmes, elles ont un autre avis, une autre opinion sur la question. Je voudrais les entendre, 01 53 48 3000. Tiens, merci Mehdi, du côté de la Côte d'Azur.
Il n'y a pas de souci.
Faites-le remonter.
J'aimerais bien pouvoir le contrôler, malheureusement, ce n'est pas de mon ressort.
Portez-vous bien. Mina de Paris, bonjour Mina. Mina, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Que pensent les femmes alors ? On est quoi finalement ? De quelle identité alors on se construit, on se bâtit, on avance ?
Écoutez, je suis sur la route et j'ai entendu l'émission et ça m'a rappelé vite fait une petite histoire qui m'est arrivée. Ma fille qui avait 12 ans.
Oui.
Une fois, on a rencontré la voisine, il pleuvait à Paris.
Ouais.
Et ma voisine me regarde et me dit, oh là là, quel temps. Eh ben, il fait beau chez vous. Et j'ai pas eu le temps de répondre, ma fille, elle avait 12 ans. Elle lui dit, ouais. Non, mais il pleut, madame. Et après, j'ai dit, oui, il fait beau. La dame est partie, ma fille ouais. était perdue. Il me dit, maman, mais t'as bien vu qu'il pleuvait. Pourquoi tu lui as dit, oui, il fait beau.
C'est pas mal, c'est pas...
Monsieur, je crois que ça résume oui. et ça veut tout dire.
Ça veut tout dire, oui. Cette métaphore.
Ça veut tout dire.
Ouais.
Et là, c'est la première fois que je suis partie.
De Nice.
Pour vous dire, je suis taxi, hein, donc oui. là, et j'ai dit, tiens, là, je vais appeler, je vais raconter quand même ça.
Vous avez un client avec vous, non?
Non, pas du tout. Là,
vous êtes toute seule. Vous rentrez chez vous, ça y est, vous avez fini votre journée.
Ben écoutez, on est perdu. C'est pas nous, encore nous, ça va.
Ouais.
Nous, on comprend, mais nos enfants, monsieur.
Ouais.
Nos enfants, quand ils sont nés ici, ma fille, elle est née ici quand on lui dit chez toi. Mmh. Mais pour elle, chez elle, c'est ici.
C'est ici. C'est pour ça que je parle de 3-4 générations. Les 3-4 générations qui sont en France, ils sont français. Et aujourd'hui, on leur dit encore, mais non, c'est chez toi là-bas.
Mais oui, mais c'est ça.
Bon.
C'est ça. Quand ma fille, elle s'appelle Zeynep. Vous savez comment j'ai appelé mon petit-fils ?
Vous l'avez
rigolé pour clôturer la.
J'ai parlé des prénoms la semaine dernière. Vous avez écouté ?
Alors, monsieur, mon petit-fils, ça veut dire que j'ai une autre fille qui a un enfant, un garçon, et je l'ai appelé, c'est moi qui a proposé Ishaq.
Ishaq. Ouais.
Voilà.
Isaac.
Pour qu'il s'intègre très très bien, monsieur.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien, c'est joli. Hein.
Et ben voilà.
Vous avez
et
raison.
Voilà.
Merci pour votre témoignage, Mina.
Ben merci à vous, monsieur.
Merci et restez fidèles. Un petit mot juste avant de retrouver Mounir de Toulon. En quelques secondes, monsieur le chercheur Jean-Claude Filistikaya, cette quête d'identité, elle vient d'où ?
Elle vient de la problématique post-coloniale. Moi, j'ai une histoire similaire. Quand j'étais adjoint, je mariais, je faisais les mariages. Et à la fin du mariage, les parents de la mariée viennent me voir. Et j'ai mon écharpe, un bleu-blanc-rouge. Et il y avait des événements en ce temps-là, à ce moment-là, en Côte d'Ivoire. On me dit, mais ça va mal chez vous. Alors, voilà. Donc, on voit bien qu'on peut avoir même sur le front la photocopie du passeport, de la carte d'identité française.
Et bon, vous renvoyez chez vous.
Dans la mairie.
C'est le lieu
dit de la République.
Avec les chartes.
Donc on voit bien qu'il y a une problématique. Mais ce qu'il faut, c'est être bien avec toutes ces composantes identitaires. Et il faut savoir que l'identité, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui se renouvelle et qui se construit. Donc il faut en être toujours fier. Et ce qu'on a en face, ce sont des attitudes racistes et discriminatoires. Mais notre recherche identitaire, c'est une problématique post-coloniale. On n'a pas choisi la colonisation.
On n'a pas choisi la colonisation.
Donc, ce qu'il faut choisir, c'est sa construction. Ça va être un combat. Ouais.
On vous retrouve dans une poignée de minutes. Anan de Paris, Khalida d'Argenteuil, Amadou de Grenoble. Anan, bonjour Anan, bonsoir. Bonsoir, baissez votre poste de radio. S'il vous plaît, parce que sinon ça fait un écho horrible à l'antenne. Anan, bienvenue, je vous écoute Anan.
Merci, merci. Je vous écoute attentivement en fait. Et du coup, je vais dire pourquoi pas intervenir.
Mais oui, vous avez raison, il faut intervenir.
Ouais, pourquoi pas intervenir, notamment en tant que femme. Parce que si c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même point de vue en tant que femme.
Il faut bien parler devant votre combiné, hein, parce qu'on vous entend à peine. Hein. Vous n'êtes pas du tout audible, ma chère Anan.
Attendez, je vous entends très mal, je suis désolée. Déconnecter, c'est plus simple.
Ah, c'est mieux là. Bah voilà.
C'est mieux.
Bah oui.
Déconnecter le téléphone de la voiture.
Bah c'est mieux. Bah oui.
Je sais pas si c'est pas plus dangereux, mais c'est plus.
Non. Arrêtez-vous, sinon n'allez pas. J'aimerais pas qu'en direct on participe à quelque chose. Surtout pas. Hein.
Vous inquiétez pas. Donc je disais, voilà, c'est important en tant que femme, notamment déjà, mais également il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut être fier de cette double identité. Je pense qu'il faut en être fier, parce qu'à l'étranger, quand on dit qu'on est français et qu'on a un passeport français, ça sert énormément.
C'est vrai qu'on a du mal à se retrouver quand on rentre dans nos pays respectifs d'origine.
Oui.
On a du mal à se retrouver parce qu'on est vu différemment.
Oui.
Parce qu'on est vu, comme disait le monsieur, comme étant des Français avec un pouvoir d'achat qui permet justement, qui leur permet justement de pouvoir, pouvoir s'enrichir.
Oui.
Voilà, donc ça c'est déstabilisant et c'est même triste. En fait, c'est triste. Parce que quand on retourne dans le pays d'origine, généralement, c'est pour retrouver ses origines. Et pour justement retrouver, voilà.
Et on vous fait comprendre, vous n'êtes pas aussi dans votre pays d'origine.
Alors, enfin, oui, on se ressent pas, on ressent pas à travers la vie originaire. Hein, on ressent pas, on se ressent pas comme étant faisant partie du pays d'origine. Ça c'est sûr. En tout cas, moi je l'ai jamais ressenti. Et pourtant, c'est pas faute d'y avoir investi, c'est pas faute d'y aller régulièrement. Et pourtant, voilà, c'est triste. Et c'est malheureux.
Et triste et malheureux. Ouais. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Anan, merci. Merci, Anan.
Voilà. Bonne soirée.
Attention hein, en conduisant, Anan. Prudence
oui,
à vous.
Pas de problème, je me reconnecte.
Reconnectez-vous. Bonne soirée. Khalida d'Argenteuil. Beaucoup de femmes, c'est bien. Khalida, bonjour.
Bonjour.
Ça va ? Je vous écoute.
C'est pareil, ça va. Je vais s'arrêter pour intervenir parce que ça nous concerne.
Oui, bien sûr, vous avez raison.
Les femmes à la radio, ben, j'ai appelé.
Mais vous avez raison. Oui, toutes les voix, évidemment. Moi, je veux entendre toutes les voix.
Je suis triste de savoir, en fait, et de ressentir qu'on n'est toujours pas intégré. Il y a plein d'anecdotes, comme a cité Mina tout à l'heure, par exemple, quand il fait chaud, qu'on dit « Ouais, il fait très, très chaud, je ne supporte pas la chaleur. » Ah bon ? Ça étonne... nos compatriotes et voilà. Ah bon, je pensais que ça allait supporter la chaleur. Que tu
alors, t'as un chameau
et on est né ici. Et j'ai mon fils qui est dans une école où on chante la Marseillaise tous les matins. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal parce que même nous, quand on nous a, pendant toutes ces années, on est entre les deux, en fait, entre les origines. Moi, je me sens très bien marocaine, hein. Y a pas de souci, mais je veux dire, je me sens mal française, en fait.
Ouais.
Dans le sens où on nous l'a fait ressentir, comme le collègue a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à force d'avoir des anecdotes, à force d'expliquer des choses, ben on est mal intégré. J'aime pas ce mot-là, intégration. Même quand il y a eu un ministère sur l'intégration, sur les gens issus de l'immigration, tous ces termes-là, moi, je les aime pas. On est français ou on ne l'est pas.
Oui, c'est vrai.
On est résident.
On est français.
Ils ont une carte de séjour, mais on est français pour ceux qui sont nés en France. En fait, basta, on s'en fiche que tu t'appelles Mohamed, Khalida... Ou
Amadou, ou Mamadou, effectivement.
C'est ça qu'on doit intégrer. Et je pense que l'histoire sur la colonisation, sur plein de si on reprend l'histoire, je pense que le mal, il vient de là, mais je pense que c'est plus profond que ça. Parce que j'ai un exemple concret. Mon fils qui est à l'école a été questionné le premier jour de la rentrée, la première fois où il y a eu la création de l'école. On leur a demandé, vous étiez d'où, vous étiez quoi, en fait? Et on a entendu marocain, algérien, on a entendu plein de nationalités, mais on n'a pas entendu français. Donc il y a un problème même au niveau de la troisième, voire quatrième génération.
Ouais, je vous rassure, hein, vous savez, ils posent encore la question en primaire ou au collège.
Voilà.
Hein.
Vous êtes quoi, enfin, de
les professeurs, je sais qu'ils renvoient, voilà. Mais vous êtes quelle origine? Vous êtes d'où, en fait?
Voilà, en fait, c'était une question, mais justement, c'était une anecdote, un peu provocatrice du directeur pour dire, bah, vous êtes. Après, il n'a pas dit non, vous ne l'êtes pas, marocain, algérien, tout ça, tout ce qu'ils ont cité. Il n'y a pas de problème s'ils le sont ou s'ils ont la double nationalité, mais il a dit, vous êtes nés où? Au lieu de les reprendre, il les a repris par une deuxième question en leur disant, vous êtes nés où? Donc, ils ont cité Argenteuil, Gennevilliers, les villes avoisinantes. Et là, il a dit, les villes que vous êtes dans quel pays?
Ah là 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 là.
Il avait 6 ans.
Et souvent, c'est la quatrième génération quand même. Hein.
Voilà, il avait 6 ans, il a répondu qu'il est né à Argenteuil, donc vous êtes argentinier.
6 ans, sa mère est française, elle est née en France, peut-être son grand-père est né en France, c'est possible.
Oui. C'est un problème, ouais.
Khalida, merci beaucoup, Khalida.
Juste une petite parenthèse, c'est encore plus difficile quand on porte le foulard ou quand on a une barbe.
Ah bah là, effectivement. Vous rajoutez encore, évidemment, un autre paramètre. Merci, Khalida.
Merci.
Du côté de Grenoble, après, je vais accueillir Maître Philippe Henri Honegger. Amadou de Grenoble, bonjour mon cher Amadou.
Bonjour Adil, merci d'avoir passé la parole. Pour moi, comment dire, c'est une question de droit. On ne définit pas une personne selon son nom ou bien selon sa religion. La religion, c'est la communauté religieuse. Quand il s'agit, on est citoyen français, c'est la République. C'est les républicains. Je comprends qu'il focalise sur l'identité. Je comprends. Eric Zeroum, quand tu prends les archis, là, comment dire, ils étaient des femmes. Même sur l'Europe, on est des Européens. L'Europe, ils ne parlent pas les Noirs, la diversité.
Ouais.
Je comprends. Sur ce côté-là, c'est les institutions politiques qui doivent nous défendre Et voilà nos droits français, citoyens. Si je contribue à la politique d'ici, je ne contribue pas à la politique de mon pays d'origine.
C'est pas, pas faux, Amadou, c'est pas faux. C'est
ouais,
pas faux.
C'est ça. Ouais. Voilà, je ne prends pas.
Le droit avant tout.
Le droit institutionnel, constitutionnel. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, le religieux, il assume le religieux.
Sauf que, pardonnez-moi, Amadou, vous voyez quand même des personnalités qui renvoient systématiquement. Évidemment, tous ces Français d'origine maghrébine ou d'origine évidemment issue de la diversité, à leur religion, l'islam.
Ouais, ou alors non.
On voit ça en permanence sur les plateaux.
Ouais, c'est pas juste, c'est pas normal. C'est une injustice sociale.
Bon, Amadou, merci.
Je vous laisse une bonne continuation à vous.
19h33.
Je dans ce pays,
merci à vous.
Je m'en fous de ce que les autres pensent de moi.
Ouais, merci Amadou, merci infiniment. C'est l'heure du Quoi de Neuf avec quelques minutes de retard. Maître Philippe Henriguer.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Maître Philippe Henriguer, cher Ruben et associé, bonjour maître.
Bonjour à vous.
Plaisir de vous retrouver mon cher maître. Vous avez décidé de parler de toutes les propositions de loi incarnées, proposées par les différents candidats. Et celle dont vous allez nous parler ce soir, votre billet d'humeur tourne de la loi proposée par Éric Zemmour.
Et oui, parce qu'avec l'élection présidentielle qui arrive à grands pas, on a des candidats qui se déclarent chaque semaine, et dans la mesure où il semble que la sécurité et la délinquance soient leur sujet de prédilection, pour ne pas dire leur sujet d'obsession, ils y vont tous de leurs petites propositions de loi et de réforme. Alors je me suis dit que chaque semaine, peut-être, je pourrais reprendre une de ces propositions pour l'analyser, la décrypter avec vous. Maintenant, vous savez, on dit débunker, fact-checker, et vous donner l'avis du modeste avocat pénaliste de terrain que je suis. Et je dois vous avouer que le début de semaine a déjà été extrêmement riche et que j'ai eu du mal à choisir. J'aurais pu vous parler de la proposition qui a été donnée ce matin, ou je crois hier, par notre garde des Sceaux, qui veut proposer de remplacer ce qu'on appelait avant le rappel à la loi, ce qu'il a décidé d'appeler maintenant l'avertissement pénal probatoire. J'en parlerai pas, parce qu'en fait, strictement, rien ne change à part le nom. Vous savez, c'est comme quand il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, ils ont remplacé les raiders par les tweaks.
On a changé
l'emballage, on a changé de nom, mais c'était toujours deux doigts coupe fin. C'est peut-être aussi la même chose que quand ils nous ont dit qu'ils allaient changer l'ancien garde des Sceaux par un avocat pénaliste engagé qui s'appelait Dupond-Moretti, et puis finalement, c'est resté la même chose, même si l'emballage a changé. Je vous parlerai pas non plus des élucubrations ce matin de Madame Pécresse, qui a répété, comme Monsieur Bertrand, qu'en France, on n'incarcère plus, c'est faux, plus 30% de mandat de dépôt, c'est-à-dire d'incarcération ces dernières années. Qu'on n'exécute pas les peines en France, nous dit-elle, ce qui est faux, 95% des peines sont exécutées en France, et que le tout carcéral serait la seule solution pour combattre la criminalité, ce qui est faux. Les pays voisins comme le Pays-Bas ferment leurs prisons car ils ont fait baisser la criminalité justement en privilégiant les mesures de réinsertion plutôt que l'incarcération. Mais je vous parlerai pas tout de ça, je vous parlerai de la meilleure proposition qu'on a eue ce jour dans cette sorte de concours l'épine des propositions loufoques, avec Monsieur Zemmour qui se déclare donc favorable à l'abolition de ce qu'on appelle parfois les lois mémorielles, c'est-à-dire la loi Guesso, la loi Pleven, qui en gros vise à réprimer les actes racistes et antisémites ou xénophobes, les discriminations fondées sur la race ou la religion, et qui réprime également l'incitation à la haine raciale, infraction qu'il connaît extrêmement bien puisqu'il a déjà été condamné à deux reprises pour celle-ci. Et je dois vous dire qu'avoir ce genre de proposition, s'en serait presque comique si ce n'en était pas si triste et absurde. Vous savez, c'est ce genre de proposition totalement dingue, un peu une situation un peu comme si on avait un homme accusé de double viol qu'on mettait à la tête de la police d'un pays et que celui-ci bénéficiait d'un non-lieu sans jamais même avoir été mis en examen. Vous voyez, ce genre de proposition et de situation qu'on aimerait ne plus avoir à constater dans un pays dont on pense que c'est un pays des droits de l'homme, protecteur des droits fondamentaux, un pays qui interdit justement le négationnisme ou l'incitation à la haine, parce qu'on a eu un procès historique à Nuremberg au sortir de la Shoah qui est venu fixer une vérité judiciaire sur ces événements, et qu'on s'appelle Zemmour ou autre, malheureusement on ne peut pas revenir là-dessus, qui protège la liberté du culte, parce qu'on n'a pas oublié les horreurs de l'Inquisition, de la massacre de la Saint-Barthélemy, des guerres de religion. Vous savez, c'est quand même extrêmement paradoxal qu'on ait quelqu'un qui se prétende féru d'histoire, voire même connaisseur en histoire, et qui ait une mémoire aussi courte, qui oublie aussi rapidement les choses. Mais moi, ce que ça me rappelle, et peut-être ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la haine et la loi ne font jamais bon ménage, mais je crois vu la tournure des choses et des propositions qu'on a chaque semaine, que je vais devoir vous le répéter et vous le répéter à de nombreuses reprises jusqu'à l'élection présidentielle.
Eh bien, écoutez, c'est une très bonne idée et on va la retenir. Nous reviendrons sur les différentes propositions de loi. Merci, Maître Philippe Honegger, chez Ruben et Associés. À la semaine prochaine, avec autant de
merci
plaisir.
À vous, à la semaine prochaine.
19h37, avec quelques minutes de retard. On va marquer la page pub et on se retrouve avec le face-à-face. Le face-à-face avec le retour de Farid Temsamani. Bonjour, Farid.
Salut Adil.
Et enfin celui évidemment qui nous éclaire sur la recherche et plein de bonnes choses aussi côté sociologique, c'est Jean-Claude Flichikaya. Bonjour.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes emmêlés les pinceaux. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h41, justement, précisément, et vous êtes très très nombreux. Et évidemment, c'est aussi le but des informés, c'est que tout le monde puisse participer partout en France, le face-à-face tout de suite.
Les informés, le face-à-face.
On remettra ça, si vous le souhaitez, dès demain. Il n'y a aucun problème pour parler, évidemment, de cette double identité. Farid Temsamani, qui, lui, est consultant géopolitique, mais également aussi consultant...
L'intelligence économique, voilà, notamment, mais pas que. Je suis également enseignant et chef d'entreprise, par ailleurs.
Absolument. Jean-Claude Flichikaya, qui lui est chercheur, et puis aussi chercheur à l'IPSE, c'est ça?
À l'IPSE.
Et enseignant aussi.
Enseignant aussi.
Messieurs, bon. On va revenir, vous savez quoi, sur ce qu'on a bâti, le mur de la honte. Vous avez suivi un petit peu cette affaire, le mur de la honte, quand même. Le mur de la honte, beaucoup, il fait parler de lui quand même. Hein. Après le mur de Berlin, nous avons le mur de Pantin, messieurs. Tout simplement, alors je vous raconte. Rapidement, hein, c'est une évacuation de consommateurs de crack vers la porte de la Villette. Justement, c'était pour protéger les riverains de Pantin et d'Aubervilliers. Et on a bâti, la police a bâti ce mur pour empêcher cela. Est-ce que franchement, c'était la solution, Farid Temsamani?
Bon, moi, je trouve que c'est la honte que dans un pays comme le nôtre, aussi riche, où on a dépensé des milliards des milliards lors du confinement, de ne pas être capable de trouver des structures même extérieur.
C'est pas la solution, le mur.
Je trouve que c'est une honte. Et le fait de dire que c'est un mur de la honte, c'est tout à fait ça. Ce sont des gens qui sont malades. Ce sont des gens qui sont souffrants. Donc, on doit avoir une réponse sanitaire, sociale et médicale pour les accompagner. Alors, et c'est là que je trouve que tant la mairie de Paris que surtout la préfecture de police, parce qu'en vérité, le mur... Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est la mairie de Pantin?
Non.
Et en fait, pas du tout, c'est la préfecture de police.
Mais je vais essayer d'avoir le maire de Pantin, tiens.
Mais c'est hallucinant. Et ces gens, en fait, ont fait déplacer le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, les riverains du précédent parc Éole, si je dis pas de bêtises, dans le 19e, en fait, n'en pouvaient absolument plus. Je rappelle...
Une cinquantaine de consommateurs.
Lorsque vous avez des consommateurs de crack, vous avez des gens potentiellement dangereux. Donc, avec tout ce que ça implique derrière, de violence, d'agression, de sentiment d'insécurité, il n'y a même plus un sentiment qui devient complètement réel. Et ces gens continuent à vivre dans ces secteurs-là. Et à Pantin, le risque, c'était que plus finalement, ils puissent se déverser sur la banlieue parisienne.
J'ai eu le porte-parole du collectif anti-crack ici. Hein.
Oui, non mais la réalité, c'est quoi? On ne va pas se mentir. Et moi, le premier, moi, je n'ai pas envie de les avoir en bas de chez moi. Je vous le dis en toute honnêteté. Certains vous le diront pas quoi que ce soit. Moi, je n'aimerais pas avoir ce type de population en bas de chez moi. Ouais. Néanmoins, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui sont malades et qui font accompagner.
Fallait
et là, j'ai l'impression.
Fallait faire quoi précisément?
Ah bah clairement, ils sont combien, Asile?
Oui, une cinquantaine.
Ils sont une cinquantaine.
Ont été évacués.
Bon, la France est un pays extrêmement riche. Eh ben, je suis désolé, une cinquantaine. On crée 10 centres, j'en sais rien, dans toute la France et on les éparpille de manière à les soigner. Je rappelle juste une chose. L'espérance de vie de ces gens-là est très faible.
Ah bah ça,
parce qu'en fait, on en parle comme ça, comme des pestiférés, mais ce sont des gens qui souffrent et qui sont malades.
Ils souffrent terriblement.
Ce sont des gens qui ont une histoire, ce sont des gens qui ont parfois des familles. Et encore une fois, c'est très délicat. Mais il faut, à mon avis, mettre les moyens et pas uniquement les balancer de square en square, faire des murs, etc. Mais ça, c'est pas une solution pour moi.
C'est pas une solution. Tiens, écoutons l'avis celui de Jean-Claude Flichikaya, justement.
Oui, je souscris à ce qui était dit. Ce dossier est géré tel une patate chaude, alors que, comme ça a été souligné, ils sont à un niveau de prise de drogue, et notamment le crack, pour ne pas le nommer. Ils sont plus de 100, hein, ils sont beaucoup plus. C'est soit un lieu de deal ou autre. Mais Sauf que la gestion de l'État et la gestion de la mairie de Paris renvoient encore une
et
fois
la préfecture de police.
Tel un réflexe pavlovien politique, en Seine-Saint-Denis, une problématique supplémentaire, alors qu'il y a une épaisseur, millefeuille de problématiques en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est une gestion qui souligne vraiment, sur le plan idéologique et politique, qui souligne vraiment ce qu'on compte faire sur une question sanitaire.
Est-ce que ça va dissuader finalement ce mur qui a été bâti c'est ça que je me posais comme question, moi. Bâtir un mur, très bien, d'accord.
Parce que ça dissuade. Comment la
préfecture d'errer dans les
peut s'arroger le droit au XXIe siècle à Paris.
Ah, ça c'est vrai.
Le fait de construire un mur.
Ça c'est
bien
vrai.
Sûr que c'est pas la même épaisseur que le mur de Berlin, mais quand même. Comment
Mais il y a les murs, il y a les maires aussi qui doivent parler, ils ont leur mot à dire. Non
exact. Oui, ils ont.
Vous avez été maire adjoint.
Oui, ils ont un mot à dire, mais ça va être une véritable patate chaude. Ça va continuer à cela. Ça va continuer à prendre ce tournant-là. C'est-à-dire qu'on va renvoyer la balle à la ville de Paris. Maintenant, la ville de Pantin qui n'avait rien demandé, ou à la ville d'Aubervilliers, on va renvoyer ça à l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Tout à l'heure, Madame Pécresse parlait d'un centre de désintoxication. Certes, il en faut un, mais ils vont pas tous aller d'emblée vers un centre de désintoxication. Donc il faut un centre de désintoxication, mais il faut aussi des centres. Et là, qui va vouloir, comme tu l'as dit, qui va vouloir accueillir cela en bas de chez lui? Qui? C'est pour ça que je parle vraiment d'un dossier patate chaude, presque une impasse politique dans une année électorale, parce que il faut l'annoncer après au Rivera.
Et ben justement, vous me permettez une belle transition. Valérie Pécresse, je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Elle se zémourit, Farid Temsamani?
Non, pas du tout. D'ailleurs, elle m'a piqué le slogan, puisque j'ai créé un think tank avec Ayette Hamidi, que je salue il y a quelques années, qui s'appelait France Fière, effectivement. Non, je pense que c'est, je pense que le slogan est plutôt bon pour une raison très simple, c'est que la France est à la croisée de ses chemins. On sait très bien que la France est tiraillée sur un certain nombre de choses, qu'on est un pays qui aime pas forcément régler ou en tout cas assumer les sujets de manière frontale, que ça plaise ou pas, de manière frontale et pédagogique. Donc du coup, ces sujets-là, en fait, sont d'actualité. Ce que je regrette sur Zemmour, en vérité, Zemmour est un petit caricaturiste. La réalité, c'est celle-ci. Et malheureusement, les sujets sont tellement importants qu'en fait, qu'ils sont pollués de la manière dont ils les apportent. C'est ça, moi, le malheur. On écoutait tout à l'heure un certain nombre d'auditeurs. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les sujets sont réels et sont importants. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont portés soit à des fins électoralistes, comme très souvent, malheureusement, dans notre pays, soit à des fins de ne pas vouloir les régler. Parce que ça aussi, le personnel politique, quel qu'il soit, on parle de Valérie Pécresse, mais plein d'autres, ces sujets-là ne datent pas d'aujourd'hui.
Elle a la stature.
Pour ?
Pour être présidente, Valérie Pécresse.
Bon, je pense qu'elle a été ministre plusieurs fois de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, si je dis pas, enfin pas de Jacques Chirac, mais de Nicolas Sarkozy. Pardon. Elle est présidente de la région la plus riche de France. C'est une femme, donc brillante. Donc est-ce qu'elle a la stature pour moi là ? Est-ce qu'elle le sera? Ça, c'est un autre débat. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va apporter dans le débat? Qu'est-ce qu'elle va apporter aux gens? Est-ce qu'elle va faire rêver les gens? On parle très souvent, quand on pose cette question-là, moi, je fais très souvent référence à Emmanuel Macron, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, plutôt jeune, et on se posait tous la question, est-ce qu'il va avoir la stature? Finalement, il a la stature. On apprécie ou pas forcément la politique menée ici ou là, mais la réalité de la stature, elle est là. Et puis, voilà, donc moi, je pense qu'elle l'a, comme d'autres prétendants. La question, c'est qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils essayent d'apporter à la société française? Quelle est la vision pour le pays, pour les 20, pour les 30 prochaines années? Et pas uniquement la réponse à tel ou tel éditorialiste caricaturiste, pour pas dire raciste. Chikaya,
justement, Valérie Pécresse, elle a des chances?
Oui, on peut dire qu'elle a une stature. Maintenant, est-ce qu'elle a l'étoffe du 21e siècle et ses enjeux? Je pense qu'elle y travaille, en tout cas depuis 5 ou 10 ans. On voit bien quand même qu'elle monte en puissance. Elle a même progressé sur des dossiers où elle était moins efficiente et conséquente qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc on voit bien que c'est une vie politique qui se déroule telle que ça doit se dérouler. Mais au 21e siècle, et notamment dans la guerre des générations aujourd'hui, on voit bien que ce qui règne dans la tête des jeunes et des moins jeunes, c'est la vision libérale et la vision environnementale. sans oublier la question sociale. Donc c'est cela qu'il faudra donc les politiques sans vraiment on prenne cela à bras le corps, mais avec une équipe.
Mais là, on s'attend. J'ai l'impression qu'on s'attend en cette campagne présidentielle, on s'attend à ce que ça tape quand même sur l'islam, sur la religion, l'islam, les musulmans, etc. Le ton est donné quand même.
Non, vraiment.
Ah, écoutez, même Valérie Pécresse en a parlé, excusez-moi.
Je vais te dire, tant que les choses sont pas réglées, on tapera encore dessus dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tant que les choses sont pas réglées, et de manière pédagogique, et de manière honnête. Il y a un véritable souci, de la part des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont co-religionnaires et qui n'acceptent pas la réalité de la France. La réalité, c'est celle-ci aussi. C'est-à-dire que la France a une logique républicaine qui nous a toujours été cachée, notamment avec cette notion raciste, en tout cas, selon moi, de l'intégration. Et de l'autre côté, vous avez des concitoyens qui voient de plus en plus de gens pratiquer cette religion-là, qui n'est plus une minorité au sens tel qu'on l'a entendu dans les siècles derniers, ou en tout cas dans les décennies dernières, c'est-à-dire non significative. Aujourd'hui, quel que soit le chiffre, et on va pas débattre ici du chiffre, on est scientifiquement dans ce qu'on appelle une minorité significative. Et la question, ce que la France, ou en tout cas la République, n'a pas encore réussi à trouver, c'est comment gère-t-on. On sait comment gérer une minorité, qu'elle soit israélite, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit tout ce que vous voulez. L'histoire, malheureusement, l'a montré. Les Israélites, par exemple, qui ont été massacrés sous Napoléon, par exemple. Mais les musulmans, qui sont une minorité aujourd'hui dite significative, on ne sait pas encore comment le gérer. Donc du coup, on est une génération qui subissent d'une certaine manière. Moi, je suis très très confiant. Je sais que dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 40 ans, ça va se corriger. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul et prendre un peu d'histoire avec nous, parce qu'il faut comprendre ce que c'est la France, faut comprendre où est-ce qu'on va.
Jean-Claude Fichikaï, vous partagez cela ou pas du
tout? Oui, parce qu'on parle de double identité. Moi, je pense qu'il y en a au minimum une triple.
C'est-à-dire qu'il
y a l'individu qui est tiraillé. Soit on lui dit d'être plus français alors qu'il
est simplement,
soit d'être du côté de sa religion, de sa couleur et autres. Et souvent, on oublie l'individu qui, en plus, s'il habite en banlieue, il va avoir un sentiment trop affectivé à son quartier, à sa rue et autres. Et parfois, il passe à côté de son individualité, il passe à côté de sa scolarité, il passe à côté de sa formation intellectuelle, universitaire et autres. Donc c'est passer de manière psychologique, de manière psychosociologique à côté de soi. Donc l'important, c'est de partir de son individualité, d'être bien avec toutes ses composantes qui de toute façon ne sont pas figées, ne ressembleront pas à celles des parents, à celles des grands-parents. C'est bien ce qui se construit, et on ne sait pas ce qu'on va être dans 10 ans sur le plan de notre individualité, notre identité. Et le fait de vouloir tout maîtriser, je veux être comme ça, je suis comme ça dans 10 ans, et avoir des fiertés qui sont vraiment presque escamotées, être fier d'une rue, fier d'une cité, certes, mais il faut surtout penser à construire son identité hybride. Et alors ?
Hybride, et alors ? C'est une vraie... Non mais c'est vrai, vous avez raison, vous deux, et il faut qu'on reste quand même sur cette belle note. Merci Farid Temsamani.
Mais merci pour l'invitation. À très vite.
Jean-Claude Fichikaï, merci. À très vite aussi.
À bientôt.
À la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir. C'est Bilal Nedman que vous retrouvez dans Time Sport de 20h à 21h. Et le match tant attendu demain. Vous allez suivre le match demain ?
Oh que oui.
C'est demain ?
Allez, Paris, c'est demain.
Paris, c'est demain ou merci ?
Paris, c'est notre partie.
On va envahir ton studio, Bilal, demain. Nous allons venir en nombre pour venir commenter le match avec toi, tiens. Allez, à demain, 19h, pour les informer. À demain avec autant de plaisir. Portez-vous bien, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.